une tentative de meurtre sur un policier. Une fusillade reliée à la vente de drogue. Un violent braquage de banque. Un gang de dangereux criminels menace toute une communauté. Les agents du FBI et un ex-policier mettront leur vie en jeu lors d'une opération spéciale pour retrouver les bandits. La ville de Camden, au New Jersey, est située juste en face de Philadelphie, de l'autre côté du fleuve Delaware. C'est l'une des villes les plus défavorisées d'Amérique et où le taux de criminalité est le plus élevé. Le 12 février 1997, l'agent Stephen Leoni effectuait sa patrouille. Il était 4h20 du matin. L'agent s'arrêta pendant un moment pour s'occuper de quelques tâches administratives.
J'ai alors entendu des coups de feu qui provenaient du secteur est de Camden, plus de 50 coups. Ce n'est pas inhabituel d'entendre des coups de feu à Camden. J'essayais de déterminer dans quel coin c'était arrivé avant de transmettre la nouvelle aux autres unités de patrouille pour éviter que les policiers parcourent la ville en tous sens.
L'agent Leoni se dirigea vers l'endroit d'où provenaient les coups de feu. Les rues étaient désertes. Il vit alors une voiture suspecte. Il la prit en filature.
Le conducteur a semblé s'apercevoir qu'une voiture de patrouille le suivait et il a viré à gauche. Je me suis penché sur mon siège. Et quand je me suis relevé, j'avais un goût de sang dans la bouche.
L'agent Leoni avait été touché au visage. Il parvint tant bien que mal à descendre de son véhicule.
Je suis descendu de la voiture pour me cacher derrière le véhicule, au cas où mes assaillants seraient toujours dans le secteur. Je savais que j'avais reçu un projectile en plein visage et que j'étais blessé, mais j'ignorais la gravité de cette blessure. J'ai appelé à la centrale pour signaler qu'un agent avait été touché.
En moins de quelques minutes, des policiers de Camden et des équipes de secours arrivèrent sur la scène du crime. Malgré ses blessures, l'agent Leoni décrivit aux policiers la voiture de l'homme qui avait fait feu sur lui. Les ambulanciers tentèrent ensuite de stabiliser son état avant de le conduire à l'hôpital le plus près. Des fragments de projectiles s'étaient logés dans le visage du policier.
J'en avais trois dans le cuir chevelu, un dans l'orbite gauche et un autre dans l'orbite droit et un petit morceau dans le nez. Je suis chanceux de ne pas avoir perdu la vue.
Les ambulanciers conduisirent l'agent Leoni à toute vitesse à l'hôpital. Pendant ce temps, les enquêteurs ratissèrent la scène du crime à la recherche d'indices. Voici Lee Salomon, le procureur de Camden County.
Quand un type a le culot de tirer sur un policier, on mobilise toutes nos ressources, et ce, le plus vite possible.
Les experts ratissèrent les environs à la recherche de la voiture du tireur. Des policiers furent alors dépêchés à une maison voisine de la scène du crime. Un homme avait entendu des coups de feu plus tôt en soirée. La porte d'entrée était criblée de trous de projectiles. Selon l'homme, quelqu'un avait essayé d'entrer chez lui par effraction plus tôt dans la soirée. L'homme avait saisi son arme à feu. Les intrus l'avaient entendu se déplacer dans la maison et avaient ouvert le feu. L'occupant de la maison avait riposté, forçant ainsi ses assaillants à partir. Les policiers croyaient que cette attaque était ce qu'on appelle dans le milieu un vol de style ninja. Des hommes au visage masqué entrent dans une maison pour y voler des drogues ou de l'argent. Plus de 50 projectiles avaient été tirés dans la maison.
Une des balles avait traversé un mur, un frigo et ensuite le mur arrière de la maison. On ne l'a jamais retrouvée. Une autre avait traversé le plafond, le plancher de l'étage supérieur et le toit. On ne l'a jamais retrouvée non plus. Ces types avaient des armes à feu très puissantes et ça nous inquiétait.
Plus tard, au cours de la matinée, les policiers trouvèrent une voiture abandonnée. Elle correspondait à la voiture décrite par l'agent Leone.
Il y avait des fragments de verre, des douilles de projectiles provenant d'une AR-15 et d'un pistolet de calibre 45 trouvé dans le véhicule. On a aussi relevé des traces de sang.
Ainsi, un des assaillants avait été touché. Un policier vérifia le numéro de plaque d'immatriculation de la voiture. Elle appartenait à une femme du quartier. Un chien de l'escouade canine flaira une odeur dans la voiture et en suivit la trace jusqu'à l'adresse de la propriétaire du véhicule.
C'était à seulement 2 ou 3 pâtés de maison de l'endroit où j'avais été blessé.
Une unité SWAT se préparait à prendre la maison d'assaut au cas où les tireurs se trouveraient encore à l'intérieur.
On a fait fermer l'école élémentaire non loin de là parce qu'on craignait qu'il y ait échange de coups de feu avec ces individus lourdement armés.
Dans l'appartement, on ne trouva aucune trace des tireurs. Les membres de l'unité SWAT trouvèrent toutefois la propriétaire du véhicule abandonné. Ils apprirent qu'elle était la petite amie de Charlie Rodriguez, un des criminels les plus violents de Camden. Entre 1984 et 1989, Charlie avait été arrêté pour possession illégale d'armes et de drogues, de même que pour avoir proféré des menaces terroristes.
Crazy Charlie était un type prêt à tout. Il n'y avait rien à son épreuve. C'était le genre d'homme qui oserait tirer sur un policier, sur une personne âgée ou sur un enfant sans aucun scrupule.
L'unité SWAT ne trouva aucune trace du tireur. Les policiers fouillèrent les lieux et interrogèrent la petite amie du suspect. Celle-ci déclara qu'elle se trouvait à son lieu de travail au moment de la fusillade et qu'elle avait signalé le vol de sa voiture. Les enquêteurs fouillèrent sa maison et relevèrent des traces de sang. Ils firent venir des experts pour qu'ils puissent recueillir des échantillons. Les enquêteurs quadrillèrent le secteur et interrogèrent les voisins de la petite amie du suspect. Ils tombèrent alors sur quelqu'un qui avait aperçu des hommes quitter la maison de la jeune femme très tôt ce matin-là. Après avoir examiné des photos, le témoin identifia l'un de ces hommes. José Baez, en libération conditionnelle, après avoir été incarcéré pour un homicide involontaire coupable et pour avoir eu en sa possession des armes à feu. Les policiers trouvèrent Baez à son appartement de Deptford, au New Jersey. Le suspect fut rapidement mis en détention provisoire. Les enquêteurs remarquèrent une blessure à la main du suspect.
Un projectile l'avait atteint et il avait tenté de recoudre la plaie lui-même.
Les policiers arrêtèrent Baez pour violation des conditions de sa libération et pour prélever un échantillon de son sang. Au labo, son sang fut comparé à celui qu'on avait recueilli dans l'affaire de la fusillade.
Ils ont pu démontrer qu'il était celui qui avait laissé les traces de sang dans la maison et le véhicule.
Les enquêteurs détenaient maintenant une preuve que Baez se trouvait dans la voiture au moment où l'agent Leone avait été blessé. Mais rien ne démontrait que c'était lui qui avait appuyé sur la détente. Au début, Baez refusa de parler aux autorités. Mais après 2 semaines de détention, il accepta finalement de rencontrer les enquêteurs.
Jose, you already read your rights, so I have to go over that with you. I'm an investigator with Camden County, and I'm trying to figure out information about the shooting.
Okay? Baez accepta finalement de parler, mais à la condition que la police protège sa famille. Il déclara que Charlie Rodriguez avait participé au vol de Steel Ninja, de même qu'à la fusillade au cours de laquelle l'agent Leoni avait été blessé.
Je crois que Baez a collaboré avec nous parce que Charlie avait menacé sa famille. C'est parce qu'il avait peur qu'il s'est montré si coopératif.
Le bureau du procureur de Camden County obtint alors un mandat d'arrêt contre Charlie Rodriguez pour avoir tenté de tuer un policier. On offrit également une récompense de $1,000 à quiconque fournirait des informations menant à l'arrestation du suspect. La police d'État ajouta le nom de Charlie Rodriguez à la liste des 10 fugitifs les plus recherchés.
On le cherchait tous les jours. Tous les patrouilleurs de Camden étaient à la recherche de Charlie Rodriguez.
Même si Charlie était bien connu à Camden, les habitants de la ville le craignaient trop pour parler aux policiers.
La peur est une arme puissante pour un type comme Charlie Rodriguez.
Au cours du mois suivant l'affaire Leoni, les policiers interrogèrent leurs informateurs, mais tout ce qu'ils apprirent, c'était que Charlie se cachait quelque part de l'autre côté du fleuve, à Philadelphie. Comme on soupçonnait Charlie d'avoir fui dans un autre état, la police fit appel à l'aide du FBI. Après avoir obtenu un mandat d'arrêt fédéral, l'agent John Tam fut chargé de la chasse à l'homme pour retrouver Charlie Rodriguez.
Je commence par me procurer de bonnes photos, puis j'examine le dossier criminel du suspect et son dossier de prisonnier pour voir qui étaient ses compagnons de cellule, qui lui a rendu visite pendant son incarcération, afin d'identifier avec qui il aurait été en contact.
Les agents du FBI tendirent un immense filet. Mais comme les policiers, ils découvrirent que les gens avaient trop peur pour parler.
Charlie Rodriguez avait la réputation d'être un tueur sans pitié. Les gens étaient très prudents quand il s'agissait de parler de lui.
Les agents mirent alors la petite amie de Charlie sous surveillance en espérant qu'elle les conduirait à lui.
Rodriguez était assez rusé pour ne pas entrer en contact avec sa petite amie. Ça ne nous a donc pas aidés.
Au cours des mois suivants, les agents continuèrent à interroger leurs informateurs. Ils apprirent bientôt que Charlie se cachait dans les Badlands, un quartier très violent de Philadelphie.
C'était un quartier très dur où il y avait beaucoup de ventes de drogue. Les gens qui vivaient là étaient constamment intimidés par des criminels. C'était très difficile d'y trouver un fugitif parce qu'il était quasi impossible d'obtenir de la coopération de qui que ce soit.
Les unités SWAT fouillèrent les immeubles des Badlands où l'on soupçonnait Charlie de se cacher.
On a fait appel au groupe d'intervention spéciale. On est arrivé à 5 heures du matin et on a fait une descente. On a capturé un criminel, mais ce n'était pas Charlie Rodriguez. On a finalement arrêté quelqu'un qui était recherché pour un autre crime.
Au même moment, dans les rues non moins sécuritaires de Camden, le FBI menait une enquête pour une autre affaire. L'agent spécial Jim Walsh obtint alors un tuyau.
On a alors appris que Charlie Rodriguez, son frère Joseph et d'autres types projetaient de commettre un vol de banque ou de s'attaquer à un fourgon blindé sous peu.
Joseph Rodriguez avait déjà été reconnu coupable de meurtre lors d'une fusillade pour une affaire de drogue dans les années 90. 2 adolescents avaient alors été abattus sur un coin de rue à Camden Sud.
Selon un informateur, Charlie et Joseph Rodriguez ciblaient une banque en particulier dans la ville voisine de Woodland, au New Jersey. Les agents constituèrent des équipes de surveillance. Si les frères Rodriguez s'attaquaient à cette banque, la police serait prête à les arrêter. Malheureusement, les semaines passèrent sans aucun signe des voleurs.
On n'a pas pu maintenir la surveillance plus longtemps car on manquait de personnel. Environ un mois et demi plus tard, on a cessé la surveillance.
Le 19 juillet 1997, quelques semaines après la fin de l'opération de surveillance, plusieurs hommes lourdement armés s'attaquèrent à la banque de Woodland. Un caissier était paralysé de peur. Deux des voleurs forcèrent une caissière à vider les tiroirs-caisses. Les autres voleurs surveillaient l'entrée et indiquaient régulièrement à leurs complices combien de temps s'était écoulé depuis leur arrivée. Un voleur tenta de forcer la directrice à ouvrir la porte de la chambre forte. Celle-ci lui répondit qu'elle ne pouvait pas le faire. La chambre forte était branchée sur une minuterie. Il lui dit alors qu'elle devait ouvrir la chambre forte, sans quoi il la tuerait. Au New Jersey, des coups de feu tirés sur un policier de Camden avaient entraîné le FBI dans une chasse à l'homme à la recherche d'un violent ex-prisonnier du nom de Charlie Rodriguez. Cinq mois plus tard, trois hommes armés de fusils semi-automatiques avaient pris d'assaut une banque de Woodland au New Jersey. La directrice de l'établissement ne pouvait ouvrir la chambre forte car celle-ci était branchée sur une minuterie. Un des voleurs menaça de la tuer. Les voleurs n'avaient plus assez de temps. Ils devaient s'enfuir avant l'arrivée des policiers. La directrice eut la vie sauve. Les agents John Tam et Jim Walsh du FBI firent enquête. Les clients et les employés de la banque étaient terrifiés. L'agent spécial Jim Walsh.
Ces gens étaient en état de choc. Une femme a dû être transportée à l'hôpital. Elle a eu si peur qu'elle a eu une petite attaque cardiaque. À voir le caractère violent de ce braquage, j'ai immédiatement su que c'était Charlie Rodriguez et son frère.
Les agents et les policiers mirent les ponts de Philadelphie et l'autoroute du New Jersey sous surveillance, mais on ne trouva aucune trace des frères Rodriguez. Joseph Rodriguez vivait à Camden, mais le FBI ne disposait pas d'assez d'indices pour l'arrêter. Et les agents le mirent sous surveillance en espérant qu'il les conduirait à Charlie.
Il s'était bien rendu compte qu'on pouvait remonter jusqu'à son frère par son intermédiaire et ils ont donc décidé de se tenir loin l'un de l'autre.
Au cours des sept mois suivants, le secteur de Camden fut la proie d'une série de vols de banque. On soupçonnait les frères Rodriguez, même si les policiers ne tenaient aucune preuve formelle de leur implication. Morristown, au New Jersey. Une ville dortoir, au nord de Camden. Le 23 mai 1998, plus d'un an s'était écoulé depuis les coups de feu qui avaient blessé l'agent Leoni. Trois hommes arrivèrent à une banque de Morristown juste avant 8h30. Ils étaient armés de fusils d'assaut et de mitraillettes. Les portes de la banque n'avaient pas encore été déverrouillées. Les voleurs avaient perdu un temps précieux. Ils se rendirent compte qu'un employé de la banque avait sans doute déclenché l'alarme silencieuse. Deux des voleurs forcèrent les caissières à vider leurs tiroirs-caisses. Un troisième tireur surveillait l'entrée et indiquait régulièrement à ses complices combien de temps s'était écoulé. Les voleurs étaient nerveux. Ils trouvaient que les caissières n'allaient pas assez vite. Les voleurs effrayèrent une caissière qui arrivait en retard. La voiture des voleurs ne démarrait pas. Pris de panique, ils ordonnèrent à la caissière de leur remettre les clés de sa voiture. Ils prirent la fuite dans la voiture de la caissière. À en juger par le comportement des voleurs, les agents Tam et Walsh étaient d'avis qu'il s'agissait vraisemblablement des frères Rodriguez. Ils obtinrent d'autres indices en examinant les photos tirées des enregistrements des caméras de surveillance. Les armes, les cagoules, même certains vêtements ressemblaient à s'y méprendre à ceux que portaient les voleurs de la banque de Woodland.
Les photos démontraient qu'ils portaient des vêtements identiques dans les deux cas.
Mais les deux agents n'avaient pas encore de preuves concluantes leur permettant de faire accuser les deux frères Rodriguez de vol de banque. Le comportement des voleurs semblait s'être modifié. Ils devenaient de plus en plus violents.
Ce gang était de plus en plus brutal. Quelqu'un allait éventuellement être tué, soit un employé de banque, soit un client, soit un policier dépêché sur les lieux. Quelqu'un allait être tué tôt ou tard, c'était inévitable.
Les agents Tam et Walsh rencontrèrent alors les services de police de toutes les villes du secteur pour leur décrire la façon de procéder des voleurs. À la fin du mois de juillet 1998, l'agent Tam obtint une piste prometteuse de la part du lieutenant Roy Whitmore du service de police de Merchantville au New Jersey.
Il a dit « Un de mes contacts est un ami d'enfance de Rodriguez et il connaît très bien son frère aussi. Il pourrait nous aider à savoir où se cache Crazy Charlie Rodriguez. »
Un an et demi après le début de l'enquête, le FBI pouvait enfin miser sur quelqu'un qui pourrait fournir des informations sur Charlie Rodriguez.
Ça a été notre plus grand coup de chance parce que, depuis le début, on était dans le noir et on cherchait quelqu'un qui coopérerait avec nous et qui saurait où était Rodriguez. Le lieutenant Whitmore a organisé une rencontre avec ce type afin qu'on mette au point un plan pour faire sortir Charlie Rodriguez de sa tanière à Philadelphie.
L'informateur était un ex-policier qui avait dû démissionner à cause de délits mineurs relatifs à la possession d'armes à feu.
Je l'ai trouvé intelligent, très articulé, si l'on tenait compte du fait qu'il avait grandi dans un environnement urbain très dur. Il m'a semblé honnête et fiable.
L'informateur déclara qu'il voulait arrêter Charlie avant qu'il tire sur quelqu'un, et plus particulièrement sur un policier, et qu'il le tue.
On a parlé de sa relation avec Joseph Rodriguez.
Les agents croyaient que Joseph devait forcément être en contact avec son frère pour planifier leur vol.
Je lui ai suggéré de demander à Joseph s'il avait eu des nouvelles de son frère, s'il était en contact avec lui, et si oui, à quelle fréquence ils se parlaient. On espérait que ces informations nous aideraient à retracer Charlie Rodriguez.
Les agents Tam et Walsh mirent un plan au point pour encourager Charlie à sortir de sa cachette. Il savait que l'ex-policier avait déjà vendu des armes.
Il avait travaillé pour un armurier, et c'était un fait connu dans le milieu, à Camden Sud.
L'ex-policier avait toutefois perdu le droit de posséder ou de vendre des armes à feu. Les agents décidèrent de se servir du passé de leur informateur pour lui donner une couverture.
Il irait rencontrer Joseph Rodriguez et lui demanderait s'il ne serait pas intéressé à acheter un pistolet. On pensait que ce serait un bon prétexte. Il ferait croire à Rodriguez qu'il avait décidé de faire son entrée dans le monde criminel.
Je savais que ça intéresserait Charlie Rodriguez. Les criminels cherchent toujours à se procurer de nouvelles armes. Ils peuvent ainsi se départir de celles qu'ils ont utilisées et se servir de nouvelles armes que l'on ne pourra pas relier à leurs crimes antérieurs.
L'ex-policier accepta de parler à Joseph lors d'une réunion de famille prévue quelques jours plus tard. Au début, Joseph sembla méfiant.
Joseph savait qu'il avait été agent de police et qu'il avait dû démissionner. L'ex-policier s'est servi de ça pour l'aborder. Il a dit « J'ai été renvoyé pour les mauvaises raisons, ils m'ont fait la vie dure. Au diable les forces de l'ordre. »
Quelques jours plus tard, Joseph contacta l'ex-policier pour convenir d'un moment pour le revoir.
Joseph lui a dit qu'il en avait discuté avec Charlie et que celui-ci était intéressé à acheter un pistolet. On progressait enfin dans cette enquête. On savait que Charlie Rodriguez était dans les parages.
L'agent Tam dit alors à l'ex-policier qu'il devait s'organiser pour rencontrer Charlie en personne.
Joseph Rodriguez était prêt à acheter cette arme et à la remettre plus tard à Charlie Rodriguez. Mais ça ne nous avancerait guère. J'ai donc clairement spécifié à notre informateur qu'il devait remettre l'arme à Charlie Rodriguez lui-même et qu'on en profiterait alors pour l'arrêter.
Le FBI n'avait nullement l'intention de laisser quelqu'un vendre une arme à feu à l'un des frères Rodriguez. L'ex-policier se rendit à l'appartement de Joseph pour mettre au point la transaction.
Notre informateur prenait de gros risques. Il aurait été tué immédiatement, à mon avis, si Charlie ou Joseph Rodriguez avaient découvert qu'il collaborait avec nous.
Camden, au New Jersey, en 1998. Un ex-policier participait à une dangereuse opération secrète organisée par le FBI. Charlie Rodriguez, aussi connu sous le nom de Crazy Charlie, était soupçonné d'avoir fait feu sur un policier et d'avoir commis plusieurs vols de banque. L'ex-policier tentait de s'infiltrer dans la bande de Charlie en proposant de lui vendre des armes à feu. L'informateur rencontra le frère de Charlie. Joseph Rodriguez, qui avait déjà été incarcéré pour homicide involontaire, le fouilla pour voir s'il y avait des micros sur lui.
On n'avait mis aucun matériel d'enregistrement sur lui car on craignait qu'il serait tué si quelqu'un le trouvait.
Lentement, mais sûrement, par le biais d'une série de rencontres, l'ex-policier finit par gagner la confiance de Joseph. L'informateur révéla aux agents du FBI John Tam et Jim Walsh que Joseph lui avait même demandé conseil sur la meilleure façon de s'y prendre lors d'un prochain vol.
Je lui ai dit « C'est une excellente idée. Tu pourrais même lui dire que tu es intéressé à y participer. Je pensais que ça nous permettrait de savoir où ils se rencontraient et qu'on pourrait ainsi intervenir avant qu'ils ne passent à l'acte. »
L'ex-policier ajouta que Charlie Rodriguez était en train d'organiser son plus gros coup jusque-là et qu'il espérait mettre la main sur un butin d'au moins 100 000 $.
J'ai dit, eh bien, on va leur faire une suggestion. S'ils veulent voler quelqu'un, on va leur fournir la cible.
Les agents Walsh et Tam planifièrent une arnaque pour attirer Charlie Rodriguez sans mettre quiconque en danger.
La clé dans cette affaire, c'était d'avoir de la crédibilité. Le criminel doit croire au scénario qu'on lui présente. Il y aurait de l'argent dans ce scénario. Il y aurait une belle occasion. Il fallait que tout cela soit plausible pour qu'il décide d'aller de l'avant avec ce plan. J'ai proposé qu'on les amène à voler le fourgon blindé qui alimentait un guichet automatique près du New Jersey Turnpike. Ainsi, on serait dans un environnement sécuritaire parce qu'on pourrait isoler la halte routière où se trouvait le guichet automatique, ce qui nous permettrait de les capturer.
Les agents Tam et Walsh choisirent l'endroit qui leur convenait le mieux.
On a choisi l'aire de repos près de Cherry Hill. Cette aire était située en contrebas des habitations tout autour. Ainsi, s'il y avait des coups de feu, les projectiles seraient bloqués par les parois rocheuses et ne s'éparpilleraient pas partout.
Le plus important pour nous, c'était qu'à cet endroit, on aurait moins de mal à contrôler la situation.
L'informateur fit sa proposition à Joseph. Celui-ci évalua soigneusement le plan.
Il a rencontré Joseph Rodriguez et il lui a dit qu'un conducteur de fourgon blindé qu'il connaissait accepterait de les aider, car il était criblé de dettes de paris sportifs et de jeux d'argent. Il le ferait à condition de toucher sa part du butin.
L'ex-policier ajouta que le chauffeur du fourgon serait leur complice et que le fourgon blindé contiendrait plus de 200 000 $.
So
Deux jours plus tard, Joseph contacta l'ex-policier de nouveau pour lui faire part de ce qu'ils avaient décidé.
Joseph Rodriguez a dit « Charlie croit que c'est une excellente idée. On peut commencer à planifier ce coup. »
Joseph dit qu'il voulait aller examiner l'aire de repos avec un troisième complice. Ce changement de plan inquiéta l'ex-policier.
Joseph a dit « Ne t'en fais pas. Tu peux lui faire confiance. »
Le troisième complice s'appelait José Soto.
Soto avait un lourd casier judiciaire. Il avait été reconnu coupable d'homicide au second degré et il était en libération conditionnelle. Ils se sont rendus à l'aire de repos pour voir s'ils pourraient facilement voler le fourgon à cet endroit.
Il y avait une voie de service à l'arrière de l'aire de repos. Ça leur permettrait d'arriver et de repartir sans jamais avoir à aller sur l'autoroute.
Ils savaient qu'ils pourraient facilement s'enfuir sans être vus par qui que ce soit. Les voleurs aimaient tout de cet endroit. Et au FBI, on l'aimait tout autant, parce que ça nous permettrait de les isoler sans qu'ils puissent s'enfuir. Ainsi, la population ne courrait aucun danger s'il devait y avoir des coups de feu ou quoi que ce soit d'autre.
Joseph fit le tour de l'aire de repos en empruntant l'itinéraire du fourgon blindé quand il venait alimenter le guichet automatique.
Joseph Rodriguez s'était bien familiarisé avec les lieux et il était à l'aise. C'est d'ailleurs lui qui a vendu l'idée à Charlie. Notre informateur n'a même pas eu à le faire.
L'informateur avisa le FBI que Charlie Rodriguez, la cible de l'arnaque organisée par les agents, avait approuvé le coup. Le vol était prévu pour le 27 août. Maintenant que le plan était en action, le FBI contacta le service responsable de l'autoroute et de l'aire de repos, c'est-à-dire la police de l'État du New Jersey. L'agent Tam mit le lieutenant-colonel Robert Dunlop au fait de la situation. Les patrouilleurs devraient bloquer l'accès de tout le secteur et l'autoroute pour protéger les automobilistes.
Il y a toujours des hélicoptères des chaînes télé et radio qui survolent les routes et qui auraient signalé aux auditeurs que l'autoroute était bloquée. Pour que le plan fonctionne, on devait bloquer l'accès à l'aire de repos seulement quelques instants avant l'arrivée des suspects pour éviter de semer la panique.
Les unités SWAT seraient postées aux entrées de l'autoroute et dans les bâtiments de l'aire de repos. Trois jours avant la date prévue du vol, les agents Tam et Walsh organisèrent une réunion entre le FBI et les chefs des unités SWAT afin de revoir le plan de l'arrestation des frères Rodriguez et de Soto.
On savait qu'ils seraient lourdement armés et, du moins dans le cas de Charlie Rodriguez, qu'ils n'hésiteraient pas à faire usage de leurs armes s'ils étaient piégés.
On projetait d'évacuer l'aire de repos quelques minutes avant l'arrivée de la bande de Rodriguez. L'informateur du FBI se garerait derrière l'aire de repos et se rendrait ensuite à pied devant le bâtiment principal pour ne pas être dans la ligne de tir. Les membres de l'unité SWAT seraient cachés dans un camion de livraison. Ils seraient couverts par des tireurs d'élite postés sur le toit du bâtiment.
Une remorqueuse conduite par un agent du FBI devait emprunter la voie d'accès. L'agent devait emboutir la voiture des Rodriguez à cet endroit précis afin de les empêcher de s'enfuir.
Une fois les voleurs pris au piège, l'unité SWAT pourrait procéder à leur arrestation.
Le plan était solide, dans le sens que si ces types avaient le moindre bon sens, ils se rendraient.
Le 27 août 1998, les agents et les policiers se réunirent à l'aire de repos. Le piège était en place.
Crazy Charlie était considéré comme un criminel très dangereux et imprévisible. Je crois que tous ceux qui participaient à cette opération savaient bien qu'il ne se laisserait pas capturer facilement. Et même si on planifie tout minutieusement, une fusillade est toujours possible.
Camden, au New Jersey. Charlie Rodriguez était soupçonné d'avoir blessé un policier et d'avoir commis plusieurs vols de banque. Le 27 août 1998, les agents John Tam et Jim Walsh du FBI avaient mis au point une opération complexe visant à arrêter le dangereux fugitif et sa bande. Près de 100 agents et policiers étaient en position à une aire de repos de l'autoroute. Mais Charlie et sa bande ne vinrent pas.
On se demandait ce qu'on avait pu faire de mal. Avait-il découvert le poteau rose? Soupçonnait-il notre informateur?
Les agents étaient inquiets pour leur informateur, un ex-policier qui avait infiltré la bande de Rodriguez. Si Charlie Rodriguez apprenait qu'il avait été piégé, il tuerait à coup sûr l'informateur du FBI.
Tôt ce matin-là, l'informateur m'a appelé pour m'annoncer que les frères Rodriguez qui devaient le rencontrer à son appartement de Merchantville n'étaient pas encore arrivés.
On lui a alors dit d'essayer de contacter Joseph afin de savoir pourquoi il n'était pas venu comme prévu.
Malgré les risques qu'il courait, l'informateur accepta de parler à Joseph. Joseph lui annonça que la veille, des policiers étaient venus car ils cherchaient un des hommes de la bande, José Soto. L'informateur appela les agents du FBI pour leur annoncer la nouvelle.
Le bureau du shérif avait un mandat contre José Soto pour défaut de paiement de la pension alimentaire de son enfant. Ça avait fait peur aux voleurs et ils avaient décidé de ne pas aller de l'avant avec leur plan.
L'agent Walsh demanda aux policiers de dire à Soto qu'il ne voulait qu'une seule chose de lui, la promesse qu'il paierait la pension alimentaire comme prévu. Les frères Rodriguez et Soto furent soulagés. Le lendemain, Joseph rencontra l'ex-policier près du pont Benjamin Franklin pour lui annoncer que Charlie avait choisi une nouvelle date pour le vol, le 1er septembre. L'opération lancée par le FBI allait suivre son cours comme prévu. Le matin avant le vol, l'informateur du FBI attendit l'arrivée de la bande à son appartement.
Jusque-là, notre informateur n'avait pas revu Charlie Rodriguez depuis le début de toute cette affaire.
Il rencontra finalement Charlie en personne.
Notre informateur a alors eu l'occasion de sortir et d'aller chercher du jus d'orange et des beignets pour les hommes.
Il en profita pour appeler l'agent Tam. Le vol serait commis comme prévu. À l'appartement, les hommes enfilèrent leurs gilets pare-balles et ils vérifièrent leurs armes. L'informateur du FBI mit une casquette facilement identifiable.
On lui a demandé de mettre une casquette particulière, ainsi on saurait que c'était notre informateur.
Les voleurs partirent alors vers l'aire de repos à bord de deux voitures. Les agents affectés à leur surveillance informaient régulièrement leurs collègues de l'endroit où ils étaient afin qu'on puisse évacuer l'aire de repos avant leur arrivée.
On a bloqué l'accès à l'aire de repos et à l'autoroute en l'espace de 10 ou 15 minutes.
L'informateur gara l'une des voitures volées dans un quartier voisin. La voiture devait servir aux hommes lorsqu'ils s'enfuiraient après le vol. Il conduisit ensuite Soto et les frères Rodriguez sur la voie d'accès qui se trouvait derrière la halte routière. Les agents du FBI, qui étaient déjà sur place, se préparaient à passer à l'action.
Ils savaient tous que cette opération était risquée. Notre informateur courait un grave danger, tout comme plusieurs agents et policiers.
L'unité SWAT du FBI attendait à bord d'un camion de livraison.
Des tireurs d'élite étaient postés sur le toit du bâtiment principal au cas où les voleurs descendraient de voiture, qu'ils chercheraient à s'enfuir ou qu'ils feraient feu sur des agents ou sur quiconque.
Près de 100 policiers étaient cachés un peu partout autour de l'aire de repos. L'informateur conduisit la bande sur la voie d'accès derrière l'aire de repos.
Notre homme s'est garé exactement là où on le lui avait indiqué.
Notre plan consistait à rendre leur véhicule hors d'état de fonctionnement en l'emboutissant avec la remorqueuse. Ainsi, les armes leur tomberaient des mains et l'unité SWAT prendrait alors le relais.
L'agent qui conduisait la remorqueuse attendait le signal. Il passerait à l'action dès que l'informateur descendrait de la voiture.
Notre principale préoccupation était de mettre notre informateur en sécurité. Une fois qu'il serait descendu de voiture, je me disais que tout irait bien.
Mais avant que l'informateur n'ait eu le temps de s'éloigner de la voiture, Charlie eut l'intuition que quelque chose ne tournait pas rond. Il l'obligea à remonter à bord, empêchant ainsi à l'unité SWAT d'entrer en action. L'agent Tam avait une décision difficile à prendre.
J'ai dit à l'unité SWAT de mettre le plan B en action, qui consistait à les prendre d'assaut. Ici aussi, la remorqueuse devait emboutir la voiture.
Le conducteur de la remorqueuse s'apprêtait à foncer sur la voiture des voleurs.
Alors que la remorqueuse approchait, Charlie a dit à notre informateur « Quelque chose ne tourne pas rond. C'est un piège. Partons d'ici. »
Pour protéger son identité, l'informateur obéit à Charlie. Il s'éloigna rapidement de l'unité SWAT. Un des voleurs tenta alors de tirer sur les agents. Les membres de l'unité SWAT ouvrirent aussitôt le feu.
Quand les coups de feu ont commencé, je crois qu'on a tous eu peur de blesser accidentellement l'informateur.
La remorqueuse emboutit la partie arrière de la voiture des voleurs.
Quand tout ça a été fini et qu'on détenait enfin ces types, on a tous ressenti un immense soulagement et une grande satisfaction que tout se soit si bien déroulé.
Par miracle, l'informateur n'avait subi aucune blessure. Les agents du FBI recueillirent les nombreuses armes à feu de Soto et des frères Rodriguez.
Je n'ai jamais vu ni entendu parler d'un braquage où il y avait autant d'armes à feu et de munitions que ce qu'on a trouvé dans cette auto. Leur puissance de feu était telle qu'ils auraient pu voler 1000 banques.
Parmi les armes se trouvait une AR-15, transformée pour être automatique, une mitrailleuse équipée d'un silencieux et une copie chinoise d'une AK-47, également transformée pour être automatique. Chacun des hommes avait aussi des armes courtes, dont le numéro de série avait été limé, ainsi que des dizaines de chargeurs remplis à pleine capacité. En tout, ils avaient plus de 1000 cartouches.
Les frères Rodriguez étaient des criminels violents. Ils avaient tué et ils tueraient encore. La seule façon de les en empêcher était de les mettre derrière les barreaux pour toujours. Et c'est ce qui est arrivé.
Le 30 mars 2000, José Soto a été condamné par la Cour fédérale à 37 ans de prison pour tentative de vol d'un fourgon blindé et pour port d'armes illégales. Quant Quant à Charlie et Joseph Rodriguez, ils ont tous dû écoper de peines de réclusion à vie, sans possibilité de libération conditionnelle pour deux vols de banque, pour tentative de vol d'un fourgon blindé et pour port d'armes illégales.